Europe 1.
Comme tous les samedis jusqu'à 9h, c'est Bernard Poirette sur Europe 1.
Le tour de table culturel de ce samedi matin, rien que du bon, rien que du meilleur avec Nicolas Carreau, Angèle Châtelier, Diane Chénouda et moi-même. Mes amis, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Nicolas Carreau, parce que ce matin, vous avez lu, vous avez adoré et donc vous voulez nous parler de l'autobiographie de Woody Allen, dont la parution a été épique, mais enfin ça a fini par sortir. Pourquoi avez-vous beaucoup aimé ?
Ça s'appelle « Soit dit en passant », publié par Stock, et effectivement c'est assez impressionnant. On l'oublie souvent, c'est un peu normal, Woody Allen n'est pas seulement cinéaste, il est aussi écrivain.
Et clarinettiste.
Mais ça, j'y connais rien. Il n'a jamais publié un grand roman, mais des nouvelles incroyablement bien écrites. Et quand on lit son autobiographie, on comprend que c'est surtout la flemme, en fait, qui l'a empêché d'écrire un roman.
Bon, ça commence fort logiquement par son enfance.
Oui, oui, c'est assez linéaire, ça commence par le début, mais avant même de lire la première page, on est déjà dans l'univers de Woody Allen. Le livre est dédié à sa compagne, Sunny. Moi, je connais la phrase, donc ça me fait déjà rire. « À Sunny, la meilleure d'entre toutes, elle me mangeait dans la main jusqu'au jour où j'ai vu qu'il me manquait un bras. » Ensuite, première page, son enfance, il vit à Brooklyn avec ses parents. Le père et la mère sont des personnages incroyables. On a vraiment l'impression de regarder un de ses films en lisant parfois. Sa mère le prend pour un génie parce qu'un test de QI l'envoie dans une classe pour surdoués. Mais écrit-il, « Je détestais toutes les institutions scolaires. » Ça, on s'en serait douté. Ouais. Il lit assidûment des bandes dessinées, les aventures de Spider-Man, Batman. « Mes amis, écrit-il encore, vous êtes en train de lire l'autobiographie d'un misanthrope illettré et fan de gangsters en prime, un solitaire sans culture. » Alors, il se met quand même à s'intéresser aux classiques, à la littérature, à la musique et à la philosophie à la fin du lycée quand il remarque que les filles, elles, n'y sont pas insensibles.
Évidemment.
Il évoque ses années théâtre et jazz, ses films aussi, bien sûr, et le cinéma en général. D'ailleurs, il explique que c'est grâce à sa cousine qu'il a commencé à regarder tous les films. Elle avait 5 ans de plus que lui. Elle l'emmenait avec ses copains quand il avait 5 ans.
Est-ce qu'il parle aussi, Woody Allen, des polémiques éternelles, récurrentes à son sujet ?
Il ne fait pas du tout l'impasse sur les accusations d'agression sexuelle dont il a fait l'objet. Il s'en défend sur une centaine de pages. Je rappelle qu'il n'a jamais été condamné, qu'il y a eu des enquêtes qui prouvent qu'il n'a rien fait. Pour résumer, il accuse Mia Farrow d'avoir manipulé toute l'histoire. C'est un livre et un univers étrangement familier qui ressemble à ses films, incroyablement bien écrit et drôle, avec cet humour pince sans rire qui le caractérise et des formules magnifiques tout le temps. Il se charge beaucoup lui-même, il se qualifie donc de solitaire, amer et incurablement pessimiste. Il dit aussi son incompréhension de la vie, ce côté absurde de l'existence qui le fascine en fait, et comment cette distance avec la réalité, cette méfiance de la réalité a fait finalement de lui un artiste.
Soit dit en passant, ça vient de sortir chez Stock, Stock qu'on peut remercier d'avoir eu le courage, faut-il dire ça, entre guillemets, de publier Woody Allen, qui n'a pas pu être publié n'importe où. On se souvient de la polémique, on en avait rendu compte sur cette antenne. Merci beaucoup, Nicolas Carreau. Quant à vous, Diane Chénouda, je suis ravi parce que vous nous emmenez à Bordeaux, qui est une ville que j'affectionne énormément, et vous nous emmenez doublement dans un lieu extraordinaire qui est l'ancienne base des sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ces bassins en béton armé, qu'on a rebaptisé les bassins de lumière, on a ouvert quelque chose pour le public, là, dans quelques jours. Qu'est-ce que c'est ?
C'est un énorme bunker en béton, comme on peut en voir hein, sur les plages. Et donc là, une partie du site est transformée en bassin de lumière numérique. Hein. C'est un lieu d'exposition incroyable. 4 énormes bassins, comme l'explique le directeur des lieux, Augustin de Cointé.
Il faut imaginer des grands bassins dans lesquels pouvaient rentrer 2 sous-marins en même temps. On est sur des dimensions absolument gigantesques. Les bassins de lumière font un peu plus de 11 000 mètres carrés, ce qui nous permet d'avoir des écrans partout. On a quasiment 13 000 mètres carrés de surface de projection parce qu'on utilise les murs. Et au milieu de ça, vous avez ces murs qui entourent l'eau. Donc on a vraiment de l'eau qui sert de miroir de reflet sur les murs et sur un espace très très impressionnant.
Et donc Diane Chénouda, il y a 2 expositions, l'une sur Klimt et l'autre sur Paul Klee, qui ouvrent le bal et elles sont spectaculaires.
Ben oui, la peinture dorée de Klimt, tout en torsade, hein, vous savez, se marie très bien avec le lieu, avec tout ce jeu de reflets dans l'eau des bassins. Écoutez.
Ce qui est très impressionnant, c'est que Klimt, il ajoute à la peinture, il ajoute des émaux, il ajoute des feuilles d'or, il ajoute beaucoup de matière. Et finalement, quand on projette cette matière-là sur la matière des bassins de lumière, ça crée un effet matière sur matière qui est tout à fait extraordinaire. Et puis, ces jeux d'or, de couleurs se reflètent dans l'eau et c'est une exposition très captivante et très impressionnante et qui tourne avec un accompagnement musical qui commence à Wagner, Beethoven, Mahler, etc.
Et pour Klimt, Ouais, c'est beau. Qui était très mélomane, hein, fou de Mozart, il jouait lui-même du violon, eh bien, c'est pareil.
Tout voulait montrer la musicalité de la peinture de Klee. Ça nous a inspiré pour travailler sur une bande-son uniquement composée de la flûte enchantée de Mozart. Et en fait, on fait jouer les œuvres de Klee au rythme de la flûte enchantée, avec quelque chose de très rythmique, de très scénographique, dans les bassins de lumière.
Ah bah écoutez, Diane Chenoudan, en tout cas, si je passe par Bordeaux prochainement, j'irai au bassin de lumière voir Klimt et Paul Klee, là, dans ces extraordinaires bassins pour sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale. C'est à découvrir à partir du 10 juin, dans quelques jours. Donc, la suite de ce tour de table culturel. Dans une poignée de secondes, on va parler musique, bien évidemment, avec la divine Angèle Châtelier. Et moi, j'ai un polar français qui se passe à Los Angeles, qui est vraiment pas piqué des hannetons. À tout de suite.
Europe 1. De 6h à 9h sur Europe 1, vous retrouvez Bernard Porrette.
La suite du tour de table culturel avec vous, Angèle Châtelier. Écoutons Angèle de la chanson française.
Oui, car Benjamin Biolay va bientôt sortir un nouvel album.
Comment est-elle belle ? La mienne est comme ça.
Toujours bien, Benjamin, ah ouais, Benji, toujours. Votre ami.
Je suis complètement d'accord. Un album appelé Grand Prix qui sortira à la fin du mois. Mais c'est pour moi, Bernard, l'occasion de revenir sur un titre de Benjamin Biolay qui a une certaine histoire. Benjamin Biolay, artiste français prolifique, beaucoup de temps à passer à écrire pour les autres et 9 albums à lui en 20 ans. Parmi eux, Négatif, sorti en 2003, c'est son deuxième. Et dedans, il y a une magnifique chanson, Little Darling. Chanson qui utilise un sample. Vous savez, Bernard, un sample, c'est quand des artistes utilisent un bout de morceau déjà existant ou une partie d'instrument.
Ah, oui.
Ils s'en inspirent et créent un morceau différent à partir de ça. Et bien, pour cette chanson, Little Darling, Benjamin Biolay a samplé une chanson datant de 1929 du groupe The Carter Family.
Célébrissime chanson du folklore nord-américain, magnifique.
C'est aussi dans cet album Négatif que Benjamin Biolay publie la chanson Des lendemains qui chantent, et c'est un peu ce qu'on ressent depuis le déconfinement.
Des lendemains qui chantent malgré la pluie, des tentes sans un accord, des hauts sans spécialité maison. On marche sur la grève, on observe une trêve.
C'est chouette, c'est aussi, hein, cet extrait donc du nouvel album de Benjamin Biolay, Grand Prix, qui sort avant la fin du mois de juin.
Exactement.
D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce choix musical d'Angèle Châtelier. Moi, je vous livre un choix de polar. Tiens, je vais vous lire le début pour une fois, ça met dans l'ambiance. Le strip club est plein. L'odeur des sexes lubrifiés se marie avec celle de la fumée d'herbe et de crack. L'odeur de crack à celle des peaux mal lavées, toutes mouillées. L'odeur des peaux à celle de champagne séché sur les seins nacrés des danseuses. Nous sommes downtown Los Angeles et l'un des types présents dans la salle se prénomme Wes. Ce soir, il pleure un énième corps, celui qu'on retrouvera demain, un autre qu'il n'a pas su épargner. À l'autre bout de la ville, dans les beaux quartiers, Beck, une ravissante apprentie comédienne, prépare une omelette à son très riche compagnon, Ashley, l'agent des stars. En lui, en fait, elle n'aime rien, pas sa façon de me parler, dit-elle, pas sa façon de me baiser. Pourtant, c'est lui qu'elle voulait, allez comprendre. Wes est donc un tueur en série, Beck est une starlette intéressée. Chacun vit avec ses démons qui les ramènent tous les deux au trou paumé où ils sont nés, Muskogee, Oklahoma. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Bientôt, ils vont se croiser dans la ville géante, se percuter presque. Deux folies qui se rencontrent, ça donne rarement quelque chose de bon, mais ça peut tout de même faire un sacré polar bien gluant et bien déjanté, bien malsain aussi. Pourtant, l'auteur a l'air tout à fait inoffensive. Elle s'appelle Morgane Montoriol. On ne sait rien d'elle, si ce n'est que Tache Rousse est son premier livre et que la couverture est particulièrement ratée. Mais ça, c'est pas très grave. Tache Rousse de Morgane Montoriol va vous emmener là où peut-être vous ne souhaitez pas aller. Rien que pour ça, ça vaut le voyage. C'est paru chez Albin Michel. Et sur ce, mes amis, je vous souhaite un très bon week-end culturel. Salut.